BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à vous qui nous retrouvez comme chaque semaine sur BPM pour vous présenter une association sociale du Mantois. Et aujourd'hui, nous allons parler de la Ligue des droits de l'homme. Pour cela, je suis en compagnie du secrétaire de la section de Mantes-la-Jolie, Alain Boudot. Alain, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que la Ligue des droits de l'homme ?
Eh bien, c'est pas une association sociale, comme vous avez dit, c'est une association civique. Dans le sens où ce qui la motive, c'est la défense des droits, c'est-à-dire le fait que les libertés soient préservées dans les lois qui sont proposées, mais aussi qu'elles soient maintenues dans le cadre de la vie pratique et des rapports avec l'administration, la police et la justice.
En quoi c'est important aujourd'hui en France, on est dans un pays, on le sait, qui est civilisé, d'avoir encore cette défense pour nos droits ?
C'est important parce que les droits sont, aujourd'hui même, constamment attaqués ou pervertis. Et bien sûr, ce qui est en jeu, c'est les libertés publiques. C'est-à-dire ce qui était promu par les droits de l'homme en 1789 et qui reste le droit d'aller et venir, le droit de s'associer, le droit de manifester, le droit d'expression, le droit de penser ce qu'on veut, le droit de communiquer ce qu'on veut. Et toutes ces libertés-là, on voit bien, sont de plus en plus remises en cause.
Quelle est l'histoire de la Ligue des droits de l'homme ?
Alors, elle a été fondée en 1898. Donc, elle a plus de 120 ans. Et c'était au moment de l'affaire Dreyfus. C'était pour défendre un innocent.
Donc, le point de départ, déjà, est très historique en lui-même.
Voilà. Puis après, dans les années 20, il y a eu la défense des droits économiques et sociaux. Et puis, il y a eu l'opposition au fascisme, les persécutions pendant la guerre, puis l'opposition au colonialisme, enfin, des positions qui sont ainsi défendues contre souvent la volonté de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une critique du gouvernement qui est implicite dans les actions de la Ligue. C'est ça, une espèce de contrôle, en fait.
Est-ce que pour autant vous êtes affilié à un type de mouvement politique ?
Alors la Ligue des droits de l'homme est indépendante de tout parti politique, de toute religion, de tout syndicat, de toute autre association.
Ce qui vous motive, c'est ces droits ?
Eh bien c'est cette idée qui vient de loin, que en fait nous avons des droits, et qui sont les droits de l'homme, qui sont cette liberté et cette égalité, cette solidarité, qui nous motive, oui.
Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme droit à défendre en 2023 ? Sur quoi est-ce que vous vous battez aujourd'hui ?
Ah ben, il y a plein de sortes de droits. Il y a des droits sociaux. D'abord, l'idée, c'est que tous les droits se tiennent ensemble. Hein, ce que l'on cherche, c'est une société qui globalement, est solidaire et qui respecte la liberté et l'égalité. Et donc, il y a des droits sociaux. Il y a comme le droit au travail, le droit au logement, le droit à la santé. Une partie de la population est écartée de ses droits ou n'arrive pas à y accéder. Alors il y a aussi des droits qui sont vis-à-vis des libertés qui sont à défendre face au mouvement du monde. Par exemple, l'introduction des nouvelles technologies. L'introduction des algorithmes, l'introduction des drones pour surveiller la foule, la vidéosurveillance et la reconnaissance faciale, qui sont des atteintes à nos libertés d'aller et venir et d'être anonyme dans la population. On n'a pas à être tracé et que l'État n'a pas besoin de savoir ce que l'on fait minute par minute. Ça, ce sont des libertés tout à fait actuelles et qui sont liées à la situation des technologies maintenant et la situation de la société.
Est-ce que parfois ce n'est pas aussi une forme d'évolution de la société, c'est-à-dire une forme de modernité ?
Oui, c'est la modernité, mais la modernité n'est pas un bien en soi. Ce qui est un bien, c'est une modernité qui mène à une société plus conviviale, plus fraternelle, plus solidaire et plus raisonnable qu'elle ne paraît des fois, comme tout le monde s'en rend compte.
Comment on fait pour lutter contre ça ?
Alors, il y a plusieurs façons de lutter. D'abord, c'est un état d'esprit. Ensuite, la Ligue des droits de l'homme est structurée dans un mouvement national, mais qui a des antennes dans tout le territoire. Alors, au niveau national, bien sûr, il y a des équipes de juristes qui travaillent sur les propositions de loi, les circulaires, les arrêtés émis par l'État et les collectivités territoriales. Il y a, bien sûr, dans les sections qui sont dans le territoire, des actions locales qui dépendent de la situation politique localement, de comment ça se passe, mais qui aussi sont en contact avec la population, avec des permanences, où l'on accueille des gens qui viennent nous voir et qui disent eh bien, moi, j'ai tel et tel problème. Et
là, on est sur du plus concret, en fait.
Tout à fait.
Où vraiment, la personne vient avec son propre souci.
Absolument. Et là, ici, dans le Mantois, le premier problème, c'est évidemment les personnes qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas de titre de séjour et qui n'arrivent pas à en avoir parce qu'ils ne savent même pas comment il faut faire.
Aujourd'hui, hein, on lit de plus en plus souvent que les titres de séjour, la durée se rallonge pour pouvoir les faire ou les faire refaire. Comment vous les accompagnez ?
Alors, il faut savoir que le droit des étrangers et les pratiques des préfectures, c'est un vrai labyrinthe, c'est kafkaïen. Et bien sûr, si ça se rallonge, c'est d'une part parce que la loi est extrêmement intransigeante, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas vraiment de moyen d'être régularisé, puisque tout a été fait pour que les étrangers ne puissent pas s'installer, mais ils sont là. Ils sont là depuis 10 ans, ils ont des enfants à l'école, ils travaillent, etc. Donc il y a un moment où il faut trouver des moyens de se régulariser cette situation. Donc il y a quelques exceptions, hein, quand vos enfants sont scolarisés depuis longtemps, lorsque vous travaillez depuis longtemps, etc. Et dans ces cas-là, les gens ont besoin d'être accompagnés, parce que c'est tellement compliqué pour réunir toutes les pièces, toutes les preuves, tous les papiers qu'il faut montrer, ils ont besoin d'être accompagnés. Alors c'est de plus en plus long, pourquoi ? Ben parce que l'administration n'a plus les moyens de sa fonction. Comme beaucoup de services publics, on a rogné sur le personnel, et donc actuellement, lorsque dans certains cas on demande un rendez-vous pour pouvoir déposer un dossier, eh bien on n'a pas de réponse avant un an.
Sauf que les gens
rien
n'ont pas
pour avoir un rendez-vous pour déposer le dossier. C'est seulement après que l'étude du dossier commence.
Vous avez l'impression que le ton s'est durci au fur et à mesure des années, justement, sur ces lois pour accompagner ?
Ah, mais depuis 30 ans, le ton n'a fait que se durcir. Puisque sous la pression de l'extrême droite et de la droite la plus radicale, l'idée que les étrangers ne doivent pas rester et qu'ils doivent être expulsés, c'est une pression très forte sur les gouvernements qui ne peuvent pas dire « soyons réalistes » pour ceux qui sont là depuis longtemps, qui sont bien insérés, bien intégrés, eh bien il faut faire quelque chose pour qu'on n'ait pas une partie de la population qui soit complètement marginalisée et sans droit. Vous savez que quand vous êtes étranger, même en France depuis 10 ans, et que vous avez des enfants qui vont à l'école, ça, c'est un droit. Les enfants doivent aller à l'école. Ils ont le droit d'aller à l'école, même si les parents n'ont pas de papier. Vous avez le droit à être soigné, parce que l'aide médicale d'État, c'est ce qui permet à des étrangers qui sont gravement malades d'être soignés. Et ça, c'est très important, non seulement pour les personnes, parce que être soigné est un droit, mais aussi pour la population. Hein, c'est en termes de propagation des épidémies, etc. C'est très important d'avoir ce contrôle-là. Et ça, c'est le genre de droit que des partis d'extrême droite refusent de voir continuer. Et c'est pour ça qu'il faut se battre, pour que ça continue.
Vous l'avez dit, c'est un état d'esprit.
Oui.
C'est ce que vous ressentez ? Il faut être animé pour pouvoir avoir envie de se défendre ?
Ah mais c'est un état d'esprit. Il faut être animé. C'est-à-dire, c'est comme toujours, c'est bien le problème du bénévolat. On n'est pas bénévole sans être animé par un esprit de vouloir agir, bien sûr.
Oui, parce qu'on le redit, vous êtes tous bénévoles.
On est tous bénévoles localement, mais au niveau national, il y a un certain nombre de juristes qui sont des professionnels.
Et ça, c'est votre état d'esprit, alors, qui vous a donné envie de lutter
Bien entendu, c'est bien ça qui donne envie. D'aider des gens qui ont des difficultés simplement pour accéder à des choses auxquelles elles ont droit ou elles devraient pouvoir. Quand on parle des titres de séjour, il existe des moyens, des légaux pour obtenir des titres de séjour dans certaines situations. Et beaucoup ne le savent pas, ne le demandent pas, et ou n'y arrivent pas tout simplement parce que c'est trop compliqué. Et donc régulariser ces personnes, ces populations, c'est leur permettre de vraiment s'intégrer et de vivre comme tout le monde. Parce que ce qu'ils demandent, c'est simplement de vivre comme tout le monde.
Beaucoup de personnes aussi bénéficient de droits sociaux auxquels ils ne font pas la demande par manque de connaissances ou par, comme vous le disiez, il y a de nombreuses raisons. C'est quelque chose auquel vous êtes attentif aussi.
Oui, là encore, le monde moderne, comme vous dites, introduit des changements dans la façon dont se fait l'accès aux services publics. Le service public devrait être au service
Internet.
De ceux qui sont les plus vulnérables. Eh bien, on s'aperçoit, à l'assurance maladie, à la CAF, que tout se fait maintenant en ligne, par Internet, qu'il y a des formulaires à remplir en ligne, que pour accéder à un guichet, ben, c'est fermé, il faut prendre un rendez-vous en ligne sur Internet, etc. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont, parce qu'ils n'ont pas été formés, donc les plus vieux, incapables de se servir des ordinateurs. Il y a ceux qui n'en ont pas, du matériel, et puis ceux qui n'ont pas été à l'école, ou qui l'ont été, et ça n'a pas laissé la possibilité qu'ils lisent et écrivent correctement. Et ça représente quand même près de 4 millions de personnes qui n'arrivent pas à accéder.
C'est estimé à 4 millions de personnes.
Absolument, à leurs droits, parce que empêchés par cette barrière de la technologie moderne. Voilà. On dit par exemple que pour le RSA, à peu près 30% de ceux qui pourraient avoir le RSA ne le demandent pas, parce qu'ils ne savent pas faire.
Et ça n'est pas automatique, il faut systématiquement.
Bien non, bien sûr que non. Ça, il faut demander, il faut remplir les formulaires, il faut, voilà. Alors, bien entendu, ça, c'est une discrimination à l'accès au droit contre lequel il faut se battre. Il faut qu'il puisse y avoir les moyens d'accéder aux droits sociaux sans avoir l'absolue nécessité de passer par Internet. Récemment, il y a une enquête du défenseur des droits qui a montré que, je ne sais plus, 40% de la population estiment qu'ils ne sont pas aptes à faire des démarches correctement sur Internet pour accéder aux impôts, à Pôle emploi, à la CAF, à l'assurance maladie, à tous ces sites qui sont maintenant la vitrine de nos services publics et parapublics.
Il est vrai qu'on le vit tous, hein. Le fait de s'inscrire un peu partout, d'avoir systématiquement des très longs codes, etc. Pour les gens qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui la précarité numérique, qui soit n'ont pas accès aux ordinateurs, non, c'est un vrai parcours du combattant en fait.
Absolument, absolument. Mais là encore, ce n'est pas obligé que ce soit comme ça. On peut très bien être adepte de la modernité et être à l'aise sur Internet et pouvoir accéder de cette façon-là. Et là, c'est un progrès parce que ça peut aller plus vite, effectivement, ça peut permettre des économies, mais il faut que pour la population qui n'y arrive pas, il y ait des accès autrement, des accès humains. Il faut que ça reste humain quelque part.
C'est ça en fait, Ligue des droits de l'homme, on reste sur l'humanité.
Voilà. Et que toute l'humanité, de façon égale, a des droits, parce qu'ils sont, rien que le fait d'être humain, donne des droits.
Vous nous disiez, la majeure partie de votre action est donc justement l'aide aux étrangers pour les titres de séjour. Quel autre type d'aide vous pouvez être amené à apporter?
On peut voir des tas de situations de par exemple de femmes qui ont des problèmes de violence dans leur environnement et qui,
les violences intrafamiliales,
voilà, et qui demandent qu'est-ce qu'elles peuvent faire. On peut voir des personnes qui sont exploitées dans leur travail. J'ai des exemples qui sont clairs. C'est lorsque vous, encore une fois, vous faites partie de cette population qui ne comprend pas bien le français écrit, et c'était pour lire un bulletin de paye par exemple, c'est quand même pas facile, hein, et pour lequel un certain nombre d'entreprises profitent de cela pour abuser Hein, j'ai vu des gens qui faisaient deux fois plus d'heures que ce qui était déclaré dans leur feuille de paye. Mais ces gens ne savaient pas que, voilà, ils ne pouvaient pas le voir. Et puis, il y a une éducation à faire aussi, où, encore une fois, un accident du travail, eh bien, il faut expliquer aux gens qu'un accident du travail, c'est pas n'importe quoi, et que non seulement c'est être soigné et pris en charge, mais que vous avez le droit d'être payé, qu'il y a l'assurance maladie, paye pendant ce temps, pendant le temps que vous êtes arrêté. Un certain nombre de gens ne savent pas, et donc se trouvent dans des situations où elles sont ou exploitées ou dans des situations délicates.
Finalement, vous luttez contre les petites et les grandes injustices, qu'elles soient au niveau de l'État, dans leur proposition de loi, comme dans le quotidien,
oui.
Les gens qui se font un peu, pas arnaquer, mais quoi que si, on pourrait dire arnaquer par des gens du quotidien, finalement.
Oui, il y a les deux choses. Au niveau national, on peut dire politique, il y a des choix qui sont faits par les gouvernements, mais ça peut être aussi par les collectivités territoriales. Dans les Yvelines, on a beaucoup de problèmes, par exemple, pour l'accueil des mineurs isolés. Hein, il y a des restrictions qui sont posées, des façons de faire qu'on ne va pas trouver dans d'autres départements. Donc là, voilà, c'est la collectivité territoriale. Au niveau national, il y a des propositions de loi qui sont ou des circulaires qui sont faits par les ministres qui peuvent être extrêmement liberticides ou qui peuvent restreindre les droits ou qui peuvent créer des discriminations. Et donc, il faut se battre contre ça. Et puis après, au quotidien, mais il y a les gens qui viennent avec leurs problèmes. Hein, leurs problèmes d'accès aux services publics, leurs problèmes de rapport avec l'administration, leurs problèmes de rapport avec la police, etc.
On l'a vu, on a d'ailleurs avec la Ligue des droits de l'homme, avec la section de Conflans,
oui.
Suite au...
Oui.
Aux élèves qui ont manifesté où la police est intervenue, c'est des choses que vous pouvez être auxquelles vous pouvez être confronté ici
bien,
aussi.
Bien entendu, on a déjà été confronté à ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, je pense qu'il est important que les professionnels de droit, les avocats, soient mobilisés. Mais pour ça, il faut pouvoir les payer. Et qui paye les avocats quand ce sont des personnes vulnérables sont mises en cause, eh bien, il faut les aider à demander l'aide juridictionnelle. Il y a quand même des grandes choses dans notre pays, et le tout, c'est de savoir les faire marcher. L'aide juridictionnelle qui fait que, pour les personnes vulnérables qui n'ont pas les revenus suffisants pour payer un avocat, lorsqu'elles se défendent, elles défendent leurs droits, elles ont le droit de faire appel à un avocat qui est payé par l'État. Et ça, c'est une grande conquête. Mais, pour arriver à ça, eh bien, il y a encore une fois des formulaires à remplir, des règles à respecter, un processus à faire qui peut être labyrinthique, encore une fois. Et là, c'est là où les gens ont besoin d'être aidés.
Quand on est confronté à toutes ces difficultés que vous accompagnez, quand vous accompagnez les gens, est-ce que c'est encore possible de garder foi en toute cette humanité et en toutes ces possibilités, de ne pas être en colère?
Ah, d'être en colère. Bien sûr, il y a plein de situations qu'on rencontre qui me mettent en colère. Mais de garder foi, bien sûr, sinon on le ferait pas. Si on n'a pas un peu la foi sur le fait que on peut essayer d'arranger les choses, si on n'avait pas foi en ça, on le ferait pas.
Aujourd'hui, quelle est votre plus grosse action en ce moment sur le secteur? Sur quoi est-ce que vous vous battez le plus?
Alors, pour nous, ce qui occupe le plus de temps, évidemment, ce sont les permanences. Lorsqu'on reçoit des gens, qu'il faut traiter leurs problèmes, ça veut dire qu'on ramène des papiers chez nous, à la maison, qu'on essaye de comprendre les situations, qu'on essaye d'intervenir là où on peut intervenir. Et c'est ça, c'est les permanences qui sont qui nous occupent le plus actuellement.
Pour les auditeurs qui nous écoutent, quand sont vos permanences, s'ils ont un besoin?
Alors, nos permanences sont le mercredi soir, puisque bien sûr on est des bénévoles, donc ça se fait le soir après le travail. Et ça se fait maintenant, depuis le Covid, maintenant c'est comme ça, ça se fait sur rendez-vous. Donc il y a un numéro de téléphone, je le donne.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Donc c'est le 07 71 73 00 44. on laisse un message et puis on rappelle un peu plus tard lorsque on fait le tour de tous les appels qu'il y a eu dans la journée pour donner un rendez-vous et, ou pour donner des conseils directement par téléphone ou résoudre des choses de cette façon. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Alain Boudou d'être venu nous parler de la Ligue des droits de l'homme et de l'accession de Mantes-la-Jolie. Merci d'être venu aujourd'hui. On se retrouve très vite sur BPM. Vous retrouvez cette émission au podcast sur le site internet bpmlaradio.com ainsi que les précédentes. À très vite.